Fort intérieur avec André Barbeau. Astrologie, sésame pour certains, bavardage pour d'autres. Vous y avez consacré votre vie, monsieur, avec une compétence, une prudence et une ouverture que je respecte. Naissance dans Lyon en 1921, très tôt initié à l'astrologie par votre frère aîné, puis rencontre importante et progressive de l'œuvre des psychanalystes, et notamment de celle de Jung. De là, vous allez vers l'astropsychologie. Et en même temps, vous ouvrez encore plus vos bras en devenant spécialiste d'astrologie mondiale, une façon de plaquer des cycles astrologiques sur l'histoire de l'humanité. De nombreux ouvrages, André Barbeau, dont hélas certains sont épuisés, comme l'astrologie mondiale édité chez Fayard en 79, ou votre Nostradamus au Club du Livre en 80, mais parmi ceux qui sont disponibles, je voudrais citer la série des 12 livres consacrés à chaque signe du zodiaque, du bélier au poisson, aux éditions du Seuil, puis la prévision astrologique, par exemple, aux éditions Trédaniel en 86, et les deux derniers ouvrages, publiés en 98, prévision astrologique pour le nouveau millénaire, aux éditions d'Angle, et, en collaboration avec votre fille Anne Barbeau, Astralité des femmes illustres aux éditions du Rocher. Alors André Barbeau, nous allons d'abord partir avec vous vers la recherche de la naissance de votre vocation qui vous vient de votre frère aîné mais qui, j'imagine, s'installe sur un terrain qui était propice, c'est-à-dire votre propre personnalité.
Il faut le croire. Quand on étudie son propre thème, on découvre évidemment des tendances qui déterminent, entre autres sur le plan intellectuel, des orientations de faculté d'esprit. Et si je vois mon thème, je constate qu'effectivement, il y a des dispositions à l'astrologie psychologique en particulier, qui procèdent, s'il y a lieu de le mentionner, d'une importante position d'Uranus.
Que vous avez découverte après.
Ah bah oui, bien ouais. Sûr. Au commencement, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une carte du ciel, si ce n'est que on en apprend très vite la signification astronomique. C'est un fait. Une carte du ciel, c'est la représentation du ciel au moment où l'on est et au lieu où l'on est. Bon, l'interprétation, ça relève de l'astrologie et non plus de l'astronomie. Et l'astrologie, c'est une connaissance qu'il faut apprendre. C'est après coup qu'on le constate.
Alors, votre frère vous a transmis les connaissances qu'il avait.
Oui, bien sûr.
Et petit à petit, vous avez choisi d'en faire votre métier.
Exactement. Ce qui remonte à très loin et qui continue d'être de la recherche.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois praticien, vous avez établi des thèmes pour des individus, et en même temps, vous êtes un chercheur.
Même j'ai fait de l'enseignement. Je considère que un astrologue complet, c'est quelqu'un qui pratique parce que c'est la seule façon de vivre l'astrologie, qui enseigne parce que c'est la manière de se détacher de son savoir pour objectiver sa connaissance et qui, au surplus, fait de la recherche, c'est-à-dire essaye de contrôler ses suppositions et continue plus que jamais, sans s'arrêter, d'enrichir sa connaissance.
Oui. Et dans ce domaine de la recherche, il y a souvent des remises en question.
Et comment?
Alors nous en revenons aux périodes de formation. Après cette formation à l'astrologie, vous vous ouvrez vers le domaine de la psychanalyse et la psychologie. C'était quand même assez nouveau d'essayer d'établir des ponts entre ces deux approches de la connaissance.
C'est vrai. Il y avait des précédents. J'ai découvert la psychanalyse en 1940 en lisant l'introduction à la psychanalyse de Freud. Et j'ai constaté que Freud se faisait des représentations du psychisme qui cadraient très bien avec l'idée qu'on pouvait se faire, déjà, que je me faisais en tout cas, de certaines données de la carte du ciel.
Ah oui, donc ça vous a mis la puce à l'oreille et ça vous a incité à essayer de voir s'il n'y avait pas incompatibilité entre ces deux domaines.
Oui, et d'abord, quand on étudie d'une façon plus approfondie l'astrologie, on constate que c'est un art divinatoire en surface. C'est en vérité, car à l'époque, dans les années 40, 50, on a d'idée de l'astrologie que comme art divinatoire. On constate que c'est quelque chose qui n'est pas très fondé. Autrement dit, on est enclin à abandonner l'astrologie en tant que prédiction d'avenir, mais on découvre que derrière cette prétention, il y a quelque chose, il y a comme une vérité de la psychologie humaine qui, elle, mérite d'être étudiée.
Oui, enfin, ce que les gens recherchent avant tout, c'est qu'on leur indique leur avenir.
Oui, mais il y a bien mieux, il y a bien plus riche que cette donnée. Car l'astrologie psychologique n'empêche pas de faire de la prévision, non pas de la prédiction, d'événements. Il n'y a aucun événement dans une carte du ciel.
Il y a des tendances.
Il y a l'être. Une carte du ciel, c'est l'être. Et l'être, dans ses tendances, c'est l'être dans les composantes de sa personnalité, dans les directions à quoi il aspire en vue de s'accomplir, de se réaliser.
Donc l'astropsychologie, c'est une manière de se rapprocher du connais-toi toi-même.
Et oui, c'est la devise socratique qui est en pleine action.
Oui, donc les armes de l'astrologue, c'est-à-dire effectivement les signes du zodiaque, mais pour vous c'est relativement secondaire par rapport aux planètes et aux cartes du ciel, ces armes permettent une meilleure connaissance de soi.
C'est l'essentiel intérêt de l'astrologie au niveau de la connaissance individuelle, c'est évident.
Parce qu'à partir du moment où on maîtrise mieux la connaissance de soi, on peut se conduire mieux dans la vie.
Il ne suffit pas de savoir que vous avez telle tendance que pour que vous pensiez vous en débarrasser. Mais on se porte déjà mieux quand on commence à comprendre quelque chose de son comportement qui jusque-là était un comportement finalement inconscient. C'est déjà un début d'une démarche de mieux-être, si ce n'est pas thérapeutique.
Alors vous avez cité Freud, qui effectivement a été votre première ouverture vers la psychanalyse, mais ensuite vous avez été beaucoup plus marqué par le psychanalyste Jung.
Oui, Jung lui-même s'était intéressé à l'astrologie. Jung était allé même très loin, puisque lui-même dressait des cartes du ciel pour interpréter les thèmes de certains de ses patients.
Il vous a semble beaucoup valable.
Je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas eu d'être immué.
Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Vous n'avez pas vu son travail.
Non, je ne sais pas. J'ai eu une correspondance avec Jung. Il a répondu à un questionnaire sur l'astrologie. Alors, je connais les opinions, les idées de Jung sur l'astrologie sur un plan théorique, mais je ne sais pas comment Jung lui-même vivait sa pratique astrologique.
Il faisait beaucoup appel à la symbolique.
Ah mais oui, mais... Oui.
Et de même, les astrologues.
Ben oui, absolument. Il y a une symbolique universelle pour les astrologues. Une planète, c'est quelque chose qui signifie quelque chose pour tout le monde. C'est bien évident. Et Jung avait une connaissance approfondie de cette chose-là. Je l'ai su davantage en fréquentant la fille de Jung, qui elle-même était devenue astrologue, et qui était une bonne praticienne. Elle a publié d'ailleurs un article dans ma revue, l'astrologue, sur l'horoscope de son père. Bon, on voit comment elle procède comme procédait son père.
C'est-à-dire ?
D'une façon classique, il y a un symbolisme de Jupiter, un symbolisme de Saturne, qui va de la perception d'un tempérament donné, d'une constitution psychophysiologique donnée, jusqu'au déploiement d'un psychisme à travers ses différentes manifestations. Et cela, c'est un classicisme de l'astrologie.
Alors André Barbeau, là nous sommes dans le secteur de l'astrologie personnelle, dans lequel vous avez mis effectivement toutes ces données issues des sciences humaines, de la psychologie et de la psychanalyse, mais vous avez étendu très largement votre champ d'investigation vers ce qu'on peut appeler l'astrologie mondiale. Alors, vous nous précisez un peu de quoi il s'agit exactement.
Oui. Avant de vous préciser ce dont il s'agit, il faut dire que l'astrologie est un pays d'utopie. Il est très facile de rêver, de batifoler dans les étoiles. Et je vois encore des astrologues aujourd'hui qui qui pensent qu'on peut deviner des vies antérieures dans un horoscope, ça me fait beaucoup sourire. Et alors, l'astrologie mondiale, c'est quelque chose qui s'adresse non plus à un individu, c'est une connaissance qui vise à comprendre, à connaître et à prévoir, si possible, des phénomènes du domaine collectif. Et sur ce plan, nous avons des points de repère qui sont beaucoup plus précis. Alors, ce n'est plus un pays d'utopie si vous faites une prévision précise à une date donnée et puis qu'il ne se passe rien. C'est une confrontation avec votre savoir. C'est un affrontement avec le réel. Et alors, pour moi, l'astrologie mondiale a été mon banc d'essai pour être sûr que je ne batifolais pas dans les étoiles.
Alors, le principe, c'est d'établir une correspondance entre la carte du ciel de telle ou telle année, mettons 1789 par exemple, et puis les événements historiques qui se sont passés à ce moment-là.
Exactement.
Oui. Et très souvent, effectivement, en tout cas dans les indications que vous nous fournissez, très souvent on s'aperçoit que dans les grandes périodes de crise, il y a des cartes du ciel qui appellent cette crise.
Oui, oui. Et alors, il s'agit surtout de suivre le déplacement des planètes dans le ciel, surtout le déplacement des planètes lentes. Il y a des planètes rapides qui font le tour du zodiaque comme la Lune en un mois, et il y a des planètes moins rapides comme le Soleil, Mercure, Vénus qui font le tour du zodiaque en un an, mais il y a 5 planètes lentes, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et plus lointainement Pluton, qui sont très lointaines du Soleil et qui ont des déplacements très lents. À partir des déplacements de ces planètes, on peut suivre une tonalité de la tendance mondiale.
Qui est valable pour tous les pays ?
Alors, il y a effectivement des climats collectifs. C'est-à-dire que le phénomène, pour bien le comprendre, relève du cycle planétaire. Un cycle planétaire, tout le monde sait. Le Soleil et la Lune tous les mois. Tous les mois, le Soleil et la Lune se rencontrent. C'est la nouvelle Lune. C'est le début du cycle solilunaire. Alors la Lune s'éloigne du Soleil, il y a le premier quartier, c'est-à-dire 90 degrés de distance de la Lune et du Soleil. Il y a ensuite la pleine Lune, l'opposition, 180 degrés, la Lune qui revient sur elle-même et qui se rencontre un mois plus tard avec le Soleil. C'est ça un cycle planétaire. Et ce qui se passe entre la Lune et le Soleil se passe entre toutes les planètes. Jupiter, prenez Jupiter, qui fait son tour du zodiaque en 12 ans, Saturne, qui fait son tour du zodiaque en 30 ans, eh bien, tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se rencontrent. C'est une grande conjonction. Et puis, Jupiter s'éloigne de Saturne, et le même phénomène se passe entre ces deux planètes, comme entre la Lune et le Soleil. Et alors, l'étude globale d'une tonalité universelle se lit selon les distances planétaires que ces planètes ont entre elles à un moment donné.
C'est-à-dire que plus la distance est grande, plus l'influence sera...
Eh bien, alors, puisque vous êtes parti sur cette note, plus la distance est grande, plus il y a de déploiement du devenir. À savoir que la grande idée de l'astrologie mondiale, qui remonte à l'Antiquité et aux grands philosophes, c'est de penser que le monde est né au moment d'une grande conjonction de toutes les planètes. Et il y a un commencement commun. Imaginez toutes les planètes alignées, toutes l'une et toutes les planètes en conjonction l'une de l'autre. Alors c'est un moment zéro du cosmos. C'est un moment de redépart, de commencement. Alors les planètes s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Et alors tant que les planètes se distancent si les unes des autres, dans une phase ascendante, comme ce qui se passe entre la Lune et le Soleil pendant la phase montante de la Lune, eh bien il y a un déroulement, il y a un déploiement, il y a un phénomène de croissance, de construction, d'édification. À un moment donné, se produit l'opposition. À partir de là, on bascule vers le phénomène de décroissance. Et c'est souvent un moment de crise. Et alors, on peut dire que la société mondiale est bonne lorsque les planètes se distancient et sont dans des phases constructives, harmonieuses. Et par contre, on entre dans des périodes de crise lorsque les planètes se tassent les unes vers les autres et font en quelque sorte un noyau. Et se rapproche d'un état zéro, d'un état de chaos, de retour à un état nouveau. C'est la ligne générale de l'astrologie mondiale.
Parce que quand vous analysez, par exemple, le thème astral d'un individu, vous êtes obligé de faire aussi intervenir l'astrologie du pays où il est né, puisqu'il en dépend, et en même temps l'astrologie mondiale. Car en fin de compte, il dépend de son propre signe et de ses propres planètes, mais il dépend aussi de tout l'environnement.
Il faudrait tenir compte de cela. Mais c'est déjà beaucoup pour un astrologue d'interpréter la carte du ciel elle-même. Il est évident que les mœurs, on dépend pour beaucoup plus, je crois, même de son milieu, de ce qu'on a vécu à travers sa famille, son éducation, le milieu dans lequel nous sommes, que de sa constitution psychologique, de sa nature propre. On pourrait presque dire que la conjoncture que nous avons en naissant vient presque en second lieu dans cette histoire. Mais on est ce que l'on est. On a quand même une nature donnée, et cette nature joue son rôle. Mais qui n'est pas forcément...
Oui, elle joue son rôle dans un contexte particulier. Donc, en fin de compte, si l'on voulait pousser très loin votre raisonnement, on va vers une très grande complexité des données. Puisqu'il y a l'individu, il y a le groupe social, il faudrait faire aussi l'astrologie des différents parents, de la cellule familiale, l'astrologie, en fin de compte, du village, du quartier, de l'appartement, et puis on élargit le cercle de plus en plus jusqu'à arriver au monde.
Ben, c'est ce qu'il faudrait faire.
Oui, mais comme on ne peut pas le faire, les résultats de l'ordre de la connaissance que vous nous donnez sont en fin de compte qu'une petite partie de la réalité qu'il faudrait connaître.
C'est vrai, c'est vrai, mais on a quand même une connaissance qui est immédiate du climat dans lequel nous vivons. On ne peut pas interpréter une carte du ciel d'une jeune fille de 20 ans d'aujourd'hui semblablement à l'interprétation qu'on aurait pu donner d'elle avec la même carte du ciel, à supposer, bien sûr, ce qui aurait été impossible, à supposer que si elle avait eu 20 ans en 1920 ou en 1940, il est évident que l'évolution a changé considérablement et qu'on vit sa configuration personnelle différemment.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même un grand espace de liberté.
Mais énorme, énorme.
André Barbeau, on entend beaucoup d'âneries sur l'astrologie, donc je suis heureux d'être avec un spécialiste comme vous pour remettre les choses en place. D'abord, vous allez nous préciser quand même la différence qu'il y a et l'importance qu'il peut y avoir entre l'analyse des planètes et l'analyse du zodiaque, parce que la plupart des gens se fient sur le zodiaque, quel est ton signe, quel est ton ascendant, et puis on s'arrête là et on dit « Ah bah oui, toi tu te conduis bien comme un lion, toi tu te conduis bien comme un poisson ». Mais en réalité, un homme comme vous, et la plupart des astrologues vraiment sérieux et savants, attachent une beaucoup plus grande importance à la configuration des planètes.
Ben, disons qu'il y a l'astrologie populaire. L'astrologie populaire, c'est tout simplement que l'on peut, par soi-même, sans tellement de calcul, savoir avec le mois où l'on est né, son signe solaire.
C'est très facile, oui.
Et on peut aussi calculer ce qu'on appelle le signe ascendant.
Qui est assez facile également.
Qui est relativement facile. Ouais. Une fois qu'on sait quel est son signe solaire, quel est son signe ascendant, je prétends qu'on ne sait pas grand-chose. En effet, une carte du ciel, qu'est-ce que ça représente? Ben, on voit un individu qui est au centre de son cosmos, c'est-à-dire autour de... Il est environné des 12 signes du zodiaque, et puis des positions des 10 astres du système solaire, que sont le Soleil, la Lune et les 8 planètes. Et alors, c'est cette situation planétaire autour de lui qui est le facteur important. J'ai même déjà dit que le signe solaire ou le signe zodiacal était le chiffre après la virgule comparativement au chiffre premier que représente la planète. Interpréter une carte du ciel consiste d'abord à connaître la signature de la personne. Dans la tradition, on ne parle pas de signature de signe, on parle de la signature planétaire. On considère que le cosmos est fait de ces planètes et tout l'univers, dans tous les domaines, porte une signature complexe. On n'appartient pas à une planète donnée, mais on a quand même une signature qui fait prévaloir la prédominance de telle planète avec telle autre planète ou telle combinaison planétaire.
Ce qui est la signature au moment de la naissance.
Ah oui, exactement. Voilà. Par exemple, une planète qui se lève, ou une planète qui culmine au moment de la naissance, c'est généralement la planète dominante. Si c'est Jupiter, le type est jupitérien. Si c'est Saturne, le type est un saturnien, pour être un peu simple.
Voilà, et une planète qui se couche donnera un signe, justement, un petit peu en déliquescence.
Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que la planète qui se couche est moins forte que la planète qui se lève, mais dès lors qu'elle est à l'horizon, elle a quand même une position importante. C'est en fait quand une planète se trouve loin des angles. Les angles, il s'agit de quoi ? De l'horizon, avec le lever d'un côté, le coucher de l'autre, et du méridien, avec la culmination supérieure, comme la position du soleil de midi, et la culmination inférieure, comme la position du soleil de minuit. Généralement, une planète qui se trouve à l'un de ces quatre angles est fortement valorisée. Elle est plus favorisée au lever, bien sûr, et à la culmination supérieure.
Voilà, donc l'essentiel pour vous, c'est d'établir la carte du ciel d'un individu, et à partir de cela, vous allez pouvoir voir quelles seront les tendances dans les différentes étapes de sa vie.
Oui.
Par rapport à d'autres cartes du ciel qui vont arriver.
Ah, naturellement.
Voilà, parce que si on prend un exemple précis, quelqu'un qui est né, je prends un exemple au hasard, en 1900, il va se trouver, par exemple, qu'en 1920 ou en 1930, il va se trouver dans une configuration planétaire qui va avoir une influence particulière sur son terrain à lui.
Oui, quelle que soit l'année, quel que soit le jour, et même quel que soit le lieu. Puisque même d'un lieu à l'autre, les choses diffèrent. Un horizon, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Il suffit d'assister au coucher du soleil ou au lever du soleil, surtout en certaines saisons, pour constater à quelle vitesse le soleil se lève ou se couche. Donc c'est un phénomène local et momentané, comme un accouchement. C'est un moment, c'est le croisement d'un moment et d'un lieu.
Mais là, la planète est prise de manière symbolique. Mars est prise de manière symbolique, oui. Vénus est prise de manière symbolique. Mais vous croyez à l'influence réelle de la planète ?
Je ne pense pas. Je ne crois pas à l'influence. Et alors...
Alors là, la précision mérite quand même d'être apportée.
Oui, c'est ça. Il y a deux écoles d'astrologie. Dans la tradition, il y a une tradition d'une astrologie influentielle, et une tradition d'astrologie symbolique. Pour certains, par exemple pour Ptolémée, qui est le grand théoricien de l'astrologie du début du millénaire, l'astrologie est plutôt physique, influentielle. L'astre a un pouvoir, il exerce un effet sur l'individu. On ne sait pas comment d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas le savoir. Et alors, il y a une école symbolique, représentée surtout par les néoplatoniciens, les platoniciens, qui considèrent au contraire que l'astre est un signe. Il est un signe indicateur. Et bien entendu, aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à accepter cette seconde version.
Donc l'influence viendrait d'autre chose que nous ne sommes pas capables de nommer.
Il y a un phénomène de concomitance. Oui. En ce moment, pour citer un cas d'actualité, il y a une dissonance. Il y a Mars en opposition de Saturne, 180 degrés, et il y a le Soleil qui est à 90 degrés de l'un et de l'autre. Il y a donc un triangle dissonant. Mais on voit le Kosovo, on voit un malaise boursier au Brésil. Il y a des tendances qui sont critiques. Est-ce que c'est la faute de Mars ? Est-ce que c'est la faute de Saturne ? Moi, on croit plutôt que c'est parce que on est dans un moment de crise, ça n'explique rien, me direz-vous, qu'on est dans un moment de crise parce que le système solaire est en tension, en éclatement. Il est possible qu'il y ait une certaine activité solaire en ce moment qui pourrait être un petit signe indicateur sans donner l'explication formelle. Bon, je vais vous citer un autre exemple. Le 1er avril prochain, le 1er 1er avril 1999, le Soleil et Jupiter vont entrer en conjonction à 11 degrés du Bélier. J'ai remarqué que c'était en harmonie avec plusieurs signes. Eh bien, c'est l'inverse. Les journées qui précèdent et qui suivent le 1er avril ont beaucoup de chance d'être des journées de détente, de mieux-être, de construction, etc. Est-ce que c'est tellement lié, c'est concomitant avec le phénomène astronomique? Mais c'est pas parce que c'est concomitant qu'il y a une action qui nous vient des planètes.
Il pourrait y avoir une action qui viendrait d'autres choses et qui, par hasard, se retrouve de manière concomitante avec les planètes.
Eh oui, mais on reste dans les hypothèses.
Voilà, on reste dans les hypothèses.
On reste dans les hypothèses.
Ça pourrait être cela, oui.
On peut pas répondre.
Vous avez interrogé toute votre vie les planètes, mais vous ne répondez pas.
Non, on ne sait pas. Faudra-t-il peut-être 1000 ans pour le savoir. Jung a parlé du phénomène de synchronicité. La synchronicité, c'est la concomitance de deux phénomènes qui sont pourtant apparemment indépendants l'un de l'autre. Mais ils se passent ensemble. Et dans la mesure où le phénomène est répétitif, ce n'est pas le hasard. Les conjonctions Soleil et Jupiter, qui se produisent tous les 13 mois, sont manifestement des configurations de détente. Les conjonctions Soleil-Mars sont des configurations de tension. Mais Mars représente notre agressivité, elle est sur Terre, notre destin, nous le faisons ici-bas, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est pas à cause de Mars que nous nous battons qu'il y a des guerres. Par contre, on est concerné par notre agressivité. Alors, nous n'en savons pas plus.
Alors nous allons prendre André Barbeau, un de vos derniers ouvrages, Prévision astrologique pour le nouveau millénaire, publié aux éditions d'Angle. Grosso modo, on peut dire que cet ouvrage se divise en deux parties. D'abord, vous appliquez ce système de prévision astrologique mondiale au passé, et vous nous montrez effectivement des correspondances qui sont tout à fait étonnantes, mais on sait très bien que lorsqu'il s'agit d'analyser le passé, on peut toujours donner un éclairage qui soit satisfaisant par rapport à une hypothèse. Alors là où on vous guette, c'est quand il s'agit de l'avenir. Hein. Une fois que vous nous avez démontré que ça fonctionnait pour le passé, on vous guette pour l'avenir. Et je voudrais quand même isoler une phrase de vous qui m'a effectivement particulièrement intéressé. Elle date de 1995, oui. Donc élection en France de Monsieur Jacques Chirac à la présidence de la République, et vous écrivez dans une revue « Le tournant à venir de notre pays se pointe à la prochaine conjonction Jupiter-Neptune de l'entrée de 1997. Élection anticipée conduisant le nouveau président à vivre à son tour une cohabitation inverse à celle du duo Mitterrand-Chirac, point d'interrogation, on se le demande. » Alors bravo, là je tire mon chapeau, car effectivement, aucun analyste politique n'avait imaginé une dissolution 2 ans après et une défaite de la majorité de l'époque. Donc vous avez senti, en analysant, en regardant la carte du ciel, qu'il y aurait quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui est arrivé.
Merci.
C'est impressionnant. Enfin ça, vous nous le donnez, c'est impressionnant. Alors donc, partant quand même de résultats probants que vous avez eus, vous allez maintenant nous dire quelles sont les grandes tendances que vous pressentez, que vous voyez, que vous analysez pour les années 99, 2000 et ensuite le prochain millénaire.
Vous voulez que nous restions pour la France ?
Restons pour la France.
Pour la France. Alors pour la France, on a l'avantage de disposer d'un cycle planétaire qui est le cycle Jupiter-Neptune. C'est un cycle qui se reproduit, qui se répète, enfin tous les 13 ans. Et alors le fait est que j'avais été impressionné que l'élection présidentielle ait été faite un peu avant cette conjonction. Cette conjonction annonçait un renouveau, un recommencement. Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur les raisons pour lesquelles j'ai évoqué cette démission, quoique je puisse dire que le nouveau président de la République avait une conjoncture critique. C'est cela qui m'a fait penser à cette donnée. Mais nous disposons, je reprends mon cycle, nous disposons du phénomène cyclique. Et à partir de là, nous pouvons, les deux planètes Jupiter et Saturne se déploient dans une phase ascendante qui s'étale sur 6 années consécutives. Et alors, dans la mesure où il y a cette conjonction, le nouveau pouvoir de la gauche, en quelque sorte, démarre sur un phénomène de début de cycle. Il dispose donc d'un capital de déploiement, en quelque sorte. Ça laisse supposer qu'il se pourrait bien que l'expérience du pouvoir de Lionel Jospin, qui a commencé là, eh bien, s'étende sur toute la phase ascendante de ce cycle qui va jusqu'à, je crois, 2001. 2001-2002, je me souviens plus bien. Et alors, c'est une promesse un peu de longue durée pour une expérience socialiste. C'est la première fois que cette chose-là arrive. Il y a eu une expérience socialiste qui s'est faite antérieurement, mais c'était faite sous une autre phase. C'était la fin d'un cycle. C'était la quatrième partie. On peut découper en quatre tranches, comme les quatre saisons de l'année. Eh bien, on pourrait dire que l'expérience socialiste de notre président antérieur, eh bien, s'est faite sous une dissonance, et puis sur une phase d'hiver, et finalement, ça n'a duré que 3 ans, et dans des conditions critiques. Hein. Tandis que là, on a affaire à un phénomène ascendant, ascensionnel, qui s'étale sur 6 années.
C'est ça, donc si je vous suis bien, vous ne pouvez absolument pas dire la gauche l'emportera ou la droite l'emportera, mais à partir du moment où vous savez qu'il y a eu un président dit de droite qui arrive en 95, oui. Vous dites il arrive dans une conjoncture qui est ceci et cela, oui. Et le cycle peut se modifier 2 ans après.
Oui.
C'est cela
c'est
votre
ça.
Manière de raisonner.
C'est exactement.
Oui.
Ouais.
Donc ce n'est pas du tout la prévision de qui sera président de la République, mais s'il y a une élection en telle année, vous pouvez nous dire c'est une phase ascendante ou c'est une phase descendante.
C'est cela.
Oui. Et alors, pourquoi avez-vous établi ce cycle pour la France? En fondant sur quoi?
Mais c'est tout simplement parce que il y a le cycle antérieur. Par exemple, là, nous sommes en 5e République. La 4e République a vécu 12 ans, 13 ans. Elle est née à une conjonction, elle est morte à la conjonction suivante. D'ailleurs, je présente dans ce livre le scénario évolutif de la phase ascendante et de la phase descendante avec toutes les étapes intermédiaires. Alors, on a un exemple précis. Et alors, antérieurement également, on peut remonter à 1945 où il y avait une conjonction Jupiter-Neptune. Bref, si vous voulez, depuis 1945, je dispose d'un matériau d'observation qui permet de constater un enchaînement de l'évolution de la
politique
qu'est-ce qui vous nationale
prouve que ce cycle,
cycle.
Oui, que ce cycle va perdurer pendant encore
je ne sais pas.
Ah non, vous ne savez pas.
Ah ben, je ne sais pas. Mais on est loin de tout savoir.
C'est donc simplement une constatation pragmatique.
C'est une constatation purement pragmatique.
Oui. Vous avez découvert un cycle, vous voyez qu'il fonctionne.
Absolument.
Et puis, un beau jour, il peut y avoir rupture de ce cycle.
Mais absolument. Alors, justement, que vous annoncez qu'il va y avoir une phase nouvelle du cycle Jupiter-Neptune. La phase nouvelle, je vous en situé 2 à la queue leu-leu, la phase nouvelle, c'est un sextile, c'est-à-dire un angle de 60 degrés entre Jupiter et Neptune qui va se produire au printemps 99. C'est un aspect qui est positif de consolidation du projet gouvernemental ou en tout cas de l'action du gouvernement en place. À l'inverse, la phase suivante sera le carré, l'angle de 90 degrés, où les deux planètes sont en perpendiculaire. C'est donc une conjoncture d'affrontement, de conflit. Et ce carré a lieu l'année suivante, l'an 2000. On n'y est pas encore. En 2000, au printemps 2000, et il y a une probabilité de crise gouvernementale sérieuse à ce moment-là.
Voilà. Voilà pour la France, et puis vous avez établi aussi des graphiques et des prévisions pour le monde entier.
Oui.
Et là, contrairement à beaucoup de personnes qui s'occupent de prévisions, vous êtes plutôt optimiste en ce qui concerne à la fois l'avenir économique de l'ensemble des pays, et notamment des pays du tiers-monde. Mm-hmm. Pourquoi ?
Il se révèle que pour les années immédiates 2000-2001, 2002, entre presque 99 et 2002, tous les cycles planétaires évoqués tout à l'heure, des planètes lentes, il y en a 10 puisqu'il y a 5 planètes lentes, tous les cycles sont ascendants. Tous les cycles sont en croissance. Et alors, la convergence c'est rare hein, qu'un phénomène comme ça se produise. La convergence en croissant de tous les cycles est révélateur d'un déploiement, est révélateur d'un développement, est révélateur d'une poussée réalisatrice sur un plan général. C'est en désaccord avec les calculs ou les évaluations faites par les prévisionnistes officiels, mais alors on fait son travail sérieusement, on ne le fait pas, on verra si c'est vrai, si c'est faux. Mais j'ai la conviction que qu'en dépit de l'inquiétude de ce passage de l'an 2000, les choses vont aller de mieux en mieux.
Oui, là vous avez le courage de vos opinions, puisque vous les déclarez en public et vous les publiez elles-mêmes. Alors, si on essaie de voir le graphique de la quasi-totalité du 21e siècle que vous avez établi dans votre ouvrage, André Barbeau, on s'aperçoit qu'il va y avoir une chute en 2020.
Oui, alors c'est là que les planètes régressent, les cycles sont en régression, il y a une dominante des cycles régression et deux planètes qui se rapprochent les unes des autres et avec une grande opposition. Une grande opposition de deux planètes importantes, Saturne et Uranus, et là on a manifestement l'indication de la seconde grande crise du 21e siècle. Il y en aura déjà eu une en l'an 2010. En l'an 2010, il y a des dissonances qui sont caractérisées. On peut vraiment situer 2010 et 2020 comme deux passages critiques. Mais c'est dans un ensemble de cycles. Les grands cycles planétaires sont ascendants. On a l'impression que se construit une civilisation nouvelle. En fait, là, ce qui était inquiétant, c'est la conjoncture qui s'est déroulée depuis les environs des années 80. Depuis le début de la crise économique de 1975, on a connu une crise immense. Alors, adieu pour les fameuses Trente Glorieuses. Tout s'est effondré. On assiste à une fin de civilisation, à examiner les choses de près vraiment, c'est la fin d'une civilisation. Et alors, ce n'est guère qu'à partir de maintenant, des prochaines années, qu'on a l'impression de sortir de cette crise. On doit sortir de cette crise. Et effectivement, la locomotive de l'histoire devrait être l'économie, car sans fortune, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce que la prospérité est là, parce qu'on a des moyens de mieux-être matériel qu'on peut espérer jaillir vers un commencement de nouvelles sociétés. Et vraiment, on peut penser que dans le cadre des 50 premières années du siècle prochain, c'est l'édification d'une société mondiale qui se produira.
Oui, parce qu'en fin de compte, il y a deux aspects. Il y a l'analyse positive que vous faites de la situation économique, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus important que vous dites, c'est-à-dire que nous serions en train d'entrer dans une nouvelle civilisation.
Tout à fait.
Carrément.
Tout à fait.
Oui.
Et je dirais que si on veut faire une comparaison, parce qu'on ne peut avoir une idée que par comparaison. La comparaison, c'est il y a 5 siècles. La fin du Moyen-Âge et l'entrée dans la Renaissance.
C'est de cette importance.
La découverte, il y a une conjoncture semblable entre celle de la découverte de l'Amérique et la crise des années 80.
André Barbeau, vous avez publié en collaboration avec votre fille Anne Barbeau aux éditions du Rocher « Astralité des femmes illustres ». Alors là, vous prenez moins de risques dans la mesure où il s'agit de femmes, pour la plupart, déjà disparues. Certaines sont encore vivantes parmi les plus jeunes, mais vous analysez leur carte du ciel et vous essayez d'établir une comparaison entre ce qu'indique la carte du ciel et ce qu'a été leur destin. Donc il y a quand même beaucoup moins d'enjeux que dans l'autre ouvrage où vous faites des prévisions qui peuvent nous concerner tous et qui effectivement peuvent nous bouleverser. Alors nous allons en prendre uniquement quelques-unes car vous analysez avec votre fille 150 cas. Mais nous allons prendre un ou deux exemples et en nous appuyant sur ces exemples essayer de voir votre méthode. Prenons l'exemple de quelqu'un comme Camille Claudel.
Ah, Capricornel, c'est un horoscope. Tous les horoscopes sont particuliers, bien sûr. Alors, c'est un horoscope très heurté. Très heurté. C'est une femme qui est née à l'approche du lever d'une conjonction Soleil-Jupiter en Sagittaire et en opposition de Mars. Je précise, déjà, un axe, un face-à-face Jupiter-Mars, c'est de la puissance, c'est énorme, c'est herculéen, c'est de la violence, c'est de la passion. Et alors, il se trouve que le Soleil accompagne. Le Soleil est en conjonction de Jupiter et en opposition de Mars. Alors, on a affaire à quelqu'un qui a une démesure. Elle a autant de démesure, d'ailleurs, que Rodin, qui est un jupitérien, avec le côté démiurge. Mais elle a un tempérament aussi puissant, aussi fort que Rodin. Et alors, ce qui est triste dans son histoire, c'est qu'elle naît au moment où Pluton est au descendant. Elle est habitée par des pulsions autodestructives qui sont très fortes. Alors, on a
l'impression... Donc le côté tragique de son destin était vraiment inscrit dans sa carte du ciel.
C'est trop dire. Je n'irai pas jusque-là. Alors...
Donc, disons, un danger.
Le pays d'utopie que je disais être de l'astrologie, il faut se méfier. Et, du moment qu'on sait tout, on est facile de dire... Bon, mais on voit, alors là, rien que Pluton à l'horizontale, on voit des pulsions destructives. Et puis cette opposition martienne est quand même quelque chose de violent, quelque chose de difficilement contrôlable. C'est une force de la nature, c'est énorme. Alors, il en a trop, elle est habitée par un démon qui est extraordinaire. Et alors, c'est vrai qu'on pense à quelqu'un qui a un manque de contenance, quelqu'un qui va déborder de lui-même. On pense à un être qui est habité par des puissances extravagantes.
Parce que j'en reviens, André Barbeau, à la question centrale quand même que tout le monde se pose, qui est la question de la liberté. À partir d'une pulsion négative, telle que vous l'avez analysée dans le thème de Camille Claudel, par exemple, chacun peut transformer cette pulsion d'une manière différente ou pas.
Oui.
Cette pulsion aurait pu devenir un apport à sa création, faire une perle d'une larme, dit-on.
Oui.
Donc, voyant un thème, vous ne pouvez pas dire si la personne va s'autodétruire ou si la personne va être créatrice.
Exactement. Oui. Mais je dois dire d'ailleurs que la composante plutonienne est forte. D'ailleurs, elle est née avec un ascendant scorpion. Pluton est maître du scorpion. Pluton est en face. La signature plutonienne est forte. Et alors, on trouve la signature plutonienne dans toute son œuvre. Thème de tragique. Le tragique, c'est pas la joie de vivre, c'est... imaginez la vague. Je ne sais pas si la vague, on voit une espèce d'ascension terrible avec les pauvres qui sont là, qui vont être engloutis. Toute son œuvre témoigne du rapport avec la mort. Pluton représente les pulsions de mort et il s'affronte aux pulsions de mort. Et alors, on n'aurait pas pu dire si... Alors, justement, dans la mesure où elle a transcendé en grande partie ses pulsions de mort dans son œuvre, elle aurait pu avoir été libérée. Elle aurait dû se libérer. Et finalement, elle n'a pas été libérée, elle était engloutie elle-même. Mais on n'aurait pas pu savoir.
Alors, après avoir analysé les astres et les destins, comme vous l'avez fait pendant une vie entière, où en êtes-vous avec la question de la liberté humaine?
Mais j'en suis que... elle est là. Et puis qu'on est bien tenu de la respecter. J'ai dit depuis très longtemps, d'ailleurs, que l'astrologie avait besoin de la liberté pour être sauvée.
C'est-à-dire?
Oh, c'est-à-dire, eh ben, si vous croyez donc qu'il serait permis de dire, à partir d'une carte de naissance, que la personne va mourir tel jour, qu'elle va se marier à telle année, etc., eh bien, je m'aligne, je m'incline. Je ne vois pas d'astrologue qui puisse le faire. C'est déjà significatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé à ce point-là. Si vous prenez le mariage, par exemple, on peut lire les moments où l'on est mu par une pulsion de passion, d'amour. On peut même avoir des jugements d'évaluation de l'importance du courant, de la qualité du courant. On peut donc avoir des estimations sur le processus amoureux que l'on peut vivre. Mais de là à dire que le sujet se mariera, ne se mariera pas...
Oui, donc à nouveau, chacun peut faire
libre.
Ce qu'il veut ou ce qu'il peut à partir du terrain.
Oui, à partir du terrain.
Voilà. Vous ne faites qu'indiquer un terrain.
C'est cela. C'est cela et seulement cela. Mais c'est déjà beaucoup, mais c'est pas suffisant si on veut savoir son avenir.
Ainsi se termine Fort intérieur avec comme invité l'astrologue André Barbeau qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord un extrait de la cantate 140 de Bach, puis Mack the Knife, extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill par Louis Armstrong et actuellement une valse musette par Gus Wieser. Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas préparée avec la collaboration d'Annie Comier, à la technique Édouard Campras, à la réalisation Catherine Prin-Legal. Je vous renvoie donc aux deux derniers ouvrages d'André Barbeau, Prévision astrologique pour le nouveau millénaire, publié aux éditions d'Angle, et l'on est effectivement assez souvent stupéfait par vos prévisions faites dans le passé, ce qui inspire confiance pour celles que vous faites en fonction de l'avenir, et donc inspire confiance puisque vous êtes optimiste contrairement à beaucoup d'autres prévisionnistes. Et puis un ouvrage publié en collaboration avec votre fille Anne Barbeau aux éditions du Rocher, Astralité des femmes illustres. Je renvoie également à la petite série Zodiac Seuil, vous avez consacré, c'est un ouvrage qui est assez ancien mais qui est encore disponible, vous avez consacré un livre sur chaque signe, mais je rappelle que pour vous, le signe zodiacal n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental, et qu'il faut surtout s'appuyer sur la carte du ciel, nous vous avons bien écouté. Et je rappelle que pour entrer en correspondance avec nous ou avec mes invités, vous pouvez le faire en écrivant à Fort Intérieur, France Culture, 75 220, Paris, CEDEX 16.